Votre revue de presse, Isabelle Souquet, bonjour.
Bonjour.
Avec le handicap à la une ce matin du JDD, le journal du dimanche.
Alors que le chef d'État va annoncer un plan ambitieux mardi, il veut conclure un pacte d'inclusion et vaincre la bureaucratie, pas moins, pour que aucun enfant, aucun adulte ne se retrouve sans solution. C'est un plan ambitieux. La ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, rappelle que 12 millions de personnes sont concernées, une personne sur cinq en France. Le JDD fait aussi parler plusieurs personnalités de leurs difficultés et de leurs combats quotidiens. Samuel Le Bihan, père d'une petite fille autiste, dit une organisation sans faille et l'aide apportée essentiellement, pour ne pas dire presque exclusivement, par des associations. Avant, dans les villages, dit l'acteur, on vivait avec les vieux et les malades. Il faut retrouver cet esprit. Agnès Jaoui, qui a eu tellement de mal à faire diagnostiquer ses deux enfants nés au Brésil, atteints de troubles 10 qui les ralentissent beaucoup. Je ressors laminé des réunions parents, professeurs et mes enfants aussi, dit la comédienne. La méconnaissance et le mépris restent immenses. Dans certains pays, les 10 sont considérés comme des hauts potentiels. Léonard de Vinci l'était, paraît-il. Le JDD qui s'attaque enfin au tabou de la sexualité des personnes handicapées et des assistants sexuels. Dans plusieurs pays d'Europe, des accompagnements sont prévus, considérés comme des soins effectués par des soignants. En France, c'est toujours de la prostitution. Et il y a urgence car il existe des filières clandestines propices aux violences et aux abus.
Mobilisation générale chez les chercheurs contre le coronavirus.
Oui, face à l'épidémie, c'est un peu l'union sacrée et c'est suffisamment rare dans la communauté scientifique pour être souligné, nous dit l'Express. La communauté qui s'organise, l'OMS a signé une charte de partage de données et déjà les plus grands laboratoires collaborent, les chercheurs chinois, puis des équipes du monde entier publient des séquences du génome du virus sur des sites dédiés avec des outils collaboratifs gratuits. La communauté européenne a débloqué 10 millions d'euros de subventions pour des essais cliniques déjà sur 3 vaccins. Mais bien sûr, continue l'hebdo, la compétition entre les labos ne disparaît pas pour autant et plus le but se rapproche, moins ils seront enclins à partager leurs données car il y aura bien sûr un enjeu derrière et l'inauguration de l'hôpital de Pékin devant les caméras du monde entier illustre aussi, conclut l'Express, cette démonstration de force à venir.
Un escroc génial devant les tribunaux cette semaine.
Avec un bureau, deux drapeaux et un masque en silicone, il a réussi à se faire passer pour un ministre. Le procès du faux Jean-Yves Le Drian s'ouvre en effet cette semaine à Paris. Celui qui a réussi à escroquer de richissimes hommes d'affaires, la propriétaire de Château Margaux et même l'Agacan qui aurait laissé 20 millions d'euros dans l'affaire. Et puis dans les échanges de Gilbert Chicly, le faux Le Drian, et de son complice, les enquêteurs ont trouvé aussi ce qui devait être leur prochain gros coup, se faire passer pour Albert de Monaco, pas moins. Les Échos Week-end tirent le portrait de ces escrocs 2.0. Ils sont nombreux à avoir fait d'Internet leur terrain de chasse. C'est le nouveau mode opératoire de l'arnaque qu'on appelait au pied dans la porte, avec maintenant d'abord des placements en bourse, puis les investissements dans le diamant ou les terres rares. Enfin les crypto-monnaies et maintenant non, la tendance va vers les produits de terroir, le vin, le whisky et même les biotechnologies. Le web regorge d'arnaques plus sombres encore, appelées par les enquêteurs les arnaques au sentiment. Elles sévissent beaucoup via les réseaux sociaux et les sites de rencontres en essayant de vous arracher quelques centaines d'euros pour payer un billet d'avion ou l'hospitalisation d'un proche et en faisant miroiter la perspective d'une rencontre.
La France n'est pas très bien placée dans la lutte anti-corruption.
Et elle recule encore un peu en passant de la 21e à la 23e place dans le classement des États de Transparency International, nous dit le Parisien. Et les chantiers ne manquent pas dans le pays pour que la culture de l'anticorruption prospère dans les entreprises comme dans les administrations. Rendre le lobbying plus transparent, mieux prévenir localement la corruption, restituer les avoirs aux populations victimes et réformer complètement le financement de la vie politique. Le journal qui s'attarde sur le cas d'Airbus, sous le coup d'une amende de 3,5 millions d'euros, le constructeur était poursuivi par le parquet national financier pour avoir utilisé des intermédiaires fictifs, pour avoir versé des sommes importantes à de hauts dignitaires et aussi pour des cadeaux somptueux. La corruption à l'ancienne en quelque sorte. Le trésor public français va quand même récupérer plus de 2 milliards d'euros.
Vous parliez de lobbying, Isabelle. Eh bien, coup de projecteur sur tous ceux qui se recyclent dans ce qu'on appelle l'influence.
Ce sont des hommes politiques devenus avocats, mais pas dans n'importe quel genre de cabinet, nous dit Challenge. Ils investissent les cabinets d'affaires spécialisés dans le lobbying, le droit public et le conseil fiscal. Des transferts facilités par des passerelles pour les hauts fonctionnaires qui n'ont pas repassé leur diplôme de droit. Alors, ils sont nombreux, parmi eux Bernard Cazeneuve, qui est aussi président du think tank des juristes, le club des juristes. Certains gardent un pied en politique, comme Jean-François Copé, quand candidat Hamot, ou François Barouin, présidente de l'Association des maires de France. Mais le carnet d'adresses ne fait pas toujours tout en la matière. Claude Guéant, cerné par les affaires à jeter l'éponge, et Dominique de Villepin a lui monté une société de conseil bien plus lucrative. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dit rester vigilante, même si elle n'a pas de vrais moyens de contrôle de ces nouveaux lobbyistes.
Visite d'une maison très particulière dans M Le Monde.
Et c'est un papier assez émouvant, effectivement, dans M Le Monde. Reportage dans une maison pour personnes âgées, pas tout à fait comme les autres. C'est un EHPAD pour les artistes. Résidence d'artistes, titre délicatement le journal. Comme Picasso était créatif jusqu'au bout de sa vie, ou Soulages, qui à 100 ans travaille encore ses outres noires, dans ce lieu unique en France, les résidents continuent souvent, tant qu'ils le peuvent, à pratiquer leur art et à exposer leurs œuvres. Les administrateurs bataillent pour pérenniser un établissement qui perd 180 000 euros par an, et sans rogner sur les activités artistiques, parce qu'ici, il y a des conférences, des concerts et surtout des expos, moment unique où les pensionnaires retrouvent l'excitation et les affres des artistes avant un vernissage. Malgré les difficultés, les deuils, ils retrouvent la crainte des critiques comme une délicieuse dernière coquetterie.
Ça a de la gueule. Merci beaucoup. C'était la revue de presse d'Isabelle Souquet.